vous êtes sur Secret de Compétences, le podcast qui vous aide à naviguer avec aisance dans la sphère professionnelle. Chaque semaine, nous explorons une compétence clé, une thématique spécifique pour plus de performance, plus de clarté, plus d'impact dans votre environnement professionnel complexe et exigeant. Alors, si vous désirez obtenir la visibilité en interne, les ressources, voire même la promotion que vous méritez, et tout cela avec intégrité, restez connectés et bien entendu, testez votre score sur bit.ly/jequiz, le lien est en description d'épisode. Bienvenue sur Secret de Compétences, je suis ravie de vous retrouver. Nous continuons notre série sur naviguer dans les conflits et plus précisément l'étude des 5 postures que l'on peut prendre face au conflit. Et comme je l'ai dit précédemment, parmi ces 5 postures, nous avons chacun une posture qui nous vient naturellement. Et l'idée est d'en apprendre un peu plus pour pouvoir également savoir mobiliser les 4 autres postures pour une gestion de conflit efficace. Aujourd'hui, je voulais couvrir avec vous le compromis. Le compromis est également une posture face à une situation conflictuelle. D'ailleurs, c'est ma posture naturelle face à une situation conflictuelle. Je suis d'abord à la recherche de compromis avant, bien sûr, de faire évoluer ma posture si je me rends compte qu'un compromis n'est pas possible ou un compromis va vraiment me desservir ou desservir les personnes avec qui je travaille. Quand on parle de compromis, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'on va renoncer à une partie de nos intérêts pour parvenir à une solution qui soit acceptable pour tous. Donc c'est une solution qui est médiane, elle n'est pas toujours idéale, elle n'est pas catastrophique non plus, elle est temporaire, elle a ses avantages et on va voir aussi qu'elle comporte des risques. Alors, quand faut-il faire un compromis? Quand est-ce que vous devez aller vers le compromis? Eh bien, je vais vous donner 5 raisons. La première raison, quand le temps presse, on doit prendre une décision rapide, eh bien, on n'a pas assez de temps pour essayer de se battre pendant longtemps pour gagner la décision finale. Et donc, eh bien, on décide de couper, par exemple, la poire en deux. Exemple, admettons, vous apprenez effectivement que l'entreprise va couper dans les coûts. D'accord? Et là, on va mettre un arrêt sur les recrutements. Vous aviez 2 recrutements pour lesquels le budget avait été validé, mais il se trouve que vous avez également un autre collègue qui avait également 2 recrutements dont le budget a été précédemment validé. Mais suite à cette nouvelle décision, eh bien, ce n'est plus 4 recrutements qui sont autorisés, c'est 2 recrutements. Eh bien, vous pouvez passer du temps à vous battre pour que vous gagniez ces 2 recrutements, ou alors, parce que le temps presse, s'il n'y a pas de décision d'ici un mois, eh bien, c'est tout qui est gelé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un compromis, chacun d'entre vous va recruter une personne. Deuxième raison d'aller vers un compromis, c'est quand on a des intérêts qui sont mutuellement exclusifs. Exemple, vous êtes dans le département de la R&D, par exemple, et vous avez votre collègue qui est dans le département IT. Vous vous retrouvez avec des ressources limitées parce que vous travaillez chacun avec des équipes transverses. Eh bien, vous pouvez décider de travailler chacun sur un projet parce que cette équipe transverse, eh bien, il y a eu des départs. Donc, on n'a pas assez de monde pour travailler sur le plan initial. Et comme vous vous partagez ces ressources ensemble, eh bien, vous décidez donc d'aller avec un projet. Le compromis également arrive lorsque vous avez un pouvoir équivalent dans l'entreprise. Vous êtes 2 directeurs, 2 directrices au même niveau hiérarchique. Chacun d'entre vous veut imposer sa stratégie. Pour éviter d'être dans une impasse, eh bien, vous décidez de faire un compromis. Et puis pour finir, lorsqu'il y a besoin de préserver la relation sans céder complètement. vous faites un geste vers l'autre, mais contrairement à céder, vous gardez certains intérêts pour vous. Ça montre votre posture constructive, c'est un moyen de faire un pas vers l'autre. Exemple, vous êtes la directrice du service client et vous avez le directeur commercial qui vous interpelle sur le fait qu'aujourd'hui, avec le nombre de petits clients que les commerciaux doivent gérer, c'est impossible pour eux d'absorber le flux de renouvellement de contrats sur des très petits clients. Et le directeur commercial, eh bien, il dit ce serait pertinent que vos équipes au niveau du support gèrent ces sujets-là, puisque sur ces petits clients, il n'y a pas vraiment de grosses négociations commerciales et le service support peut largement s'en occuper. Eh bien, vous pouvez décider de faire un pas vers le directeur commercial en disant « bah, écoutez, moi, je ne peux pas absorber l'ensemble du flux des petits clients parce que mes équipes ont quand même voilà, des tâches et une mission à accomplir. Cependant, tous les petits clients dont les contrats sont par exemple inférieurs à 5 000 €, eh bien, mes équipes support peuvent s'en occuper. Ça permet de libérer les équipes commerciales d'une certaine charge sans pour autant submerger les équipes support. Voilà un exemple de compromis. On préserve la relation sans céder complètement. Alors, bien entendu, il y a des risques aussi face au compromis. C'est vrai que couper la poire en deux donne l'impression que c'est une stratégie ultime. Pas tout le temps, parce que, premièrement, le compromis peut créer une perte d'efficacité. Donc, je reprends mon exemple tout à l'heure de la directrice du support avec le directeur commercial. Cette solution, elle peut fonctionner à un moment, mais lorsque la directrice va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de petits clients à moins de 5 000 € par an qui sont signés, elle va se rendre compte que, eh bien, elle peut pas forcément recruter encore plus pour absorber la charge et ce n'est peut-être pas la véritable solution puisque les équipes support vont maintenant commencer à avoir des difficultés à répondre aux questions clients ou aux difficultés clients. Le compromis aussi, le risque, c'est lorsqu'on évite les vrais enjeux. Le compromis peut être le cache-misère qui évite d'aborder des désaccords profonds ou des enjeux de pouvoir. Je reprends mon exemple, la directrice du support qui dit, eh bien, moi, je vous aide en absorbant une partie de la charge, peut finalement vouloir éviter d'avoir une discussion qui soit peut-être profonde et claire sur « mais en fait, c'est quoi le problème exactement ?» Et peut-être que la solution n'est ni chez le support, ni chez les équipes commerciales et qu'il faut entrevoir une autre solution, n'est-ce pas ? Et puis, ce qu'on veut éviter aussi, c'est que lorsque la posture naturelle est le compromis, eh bien, on peut créer chez les autres collègues, les autres parties prenantes, cette idée que avec nous, eh bien, on peut toujours négocier. On peut finalement faire que les autres s'attendent à négocier tout le temps avec nous et ça peut nous affaiblir dans la durée. Et puis pour finir, le compromis peut favoriser la médiocrité. Lorsqu'on choisit toujours une solution entre deux, eh bien, on peut finalement arriver à quelque chose de bancal ou de flou. Si je reprends donc mon exemple avec la directrice du support et le directeur commercial, si rien n'est fait et que les choses restent ainsi, on va avoir une équipe finalement support qui n'arrive plus à absorber le flux des petits clients qui n'arrivent plus non plus à répondre aux besoins des clients existants, une équipe commerciale qui n'est pas non plus en train de performer comme il faut si elle continue à signer que des petits clients. Donc finalement, personne n'y gagne et c'est bancal. Voilà pour aujourd'hui lorsqu'on parle de compromis. Ce qu'il faut retenir, c'est que le compromis permet de faire un pas vers l'autre en étant constructif. Il est très utile lorsque le temps presse ou lorsque, à un niveau hiérarchique équivalent, on a besoin de prendre une décision pour éviter de rester dans l'impasse. Mais ce n'est pas forcément le mode de gestion d'une situation conflictuelle optimale. On verra la semaine prochaine d'autres modes de gestion, un quatrième mode de gestion qui va également apporter un éclairage sur l'épisode de ce jour. Je vous invite à vérifier si vous pratiquez les 5 erreurs qui vous empêchent d'obtenir la visibilité, les ressources ou même la promotion que vous méritez en testant vos compétences sur bit.ly/jequiz. Le lien se trouvera en description de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Je serai ravie d'avoir votre feedback ou votre témoignage sur Apple Podcasts ou Spotify. Et n'oubliez pas, votre test de compétences vous attend sur bit.ly/jequiz. À la semaine prochaine.